Oui, c'est clairement ça. Je dirais que toutes les personnes qui ne sont pas forcément dans le métier puissent dialoguer avec les personnes du métier.
Souvent, on associe le développement durable de l'habitat avec une diminution du confort. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une fausse interprétation?
Je pense que c'est une fausse réinterprétation. C'est même le contraire quand on voit les écoquartiers qui existent, qui fonctionnent en Suisse ou ailleurs. La qualité de vie est très importante parce que justement la réflexion a été menée jusqu'au bout en termes de qualité des matériaux, mais surtout en termes de qualité des espaces de vie à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. En général, les personnes qui habitent dans ces quartiers ont aussi une volonté de faire partie de ce quartier. Donc, on a toute une vie sociale qui se développe. Donc, à choix, je pense que les écoquartiers, c'est plutôt quelque chose qui donne envie.
Donc, justement, c'est pas le message, c'est aussi de dire aux gens si vous choisissez ce type de quartier, vous n'allez pas forcément sacrifier votre confort. Ce sera même plutôt l'inverse.
Oui, après tout dépend de ce qu'on entend par confort. Mais si c'est d'avoir une vie bien remplie avec des personnes autour de soi, de pas perdre du temps dans des transports inutiles, de pas mettre son argent dans les charges de chauffage, mais plutôt les mettre dans la façon dont on vit, je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes.
Alors pour mieux comprendre. Finalement, la maison de demain ou un écoquartier, ça ressemble à quoi?
Alors, tout dépend de l'échelle. On peut avoir la maison, comme vous dites, il y a l'appartement aussi. C'est de se dire de quelque part de quelle quantité de surface une personne ou une famille elle a besoin au courant de sa vie. On n'a pas besoin de la même surface quand on a 18 ans que quand on a 40 ans, une famille avec deux enfants, ou bien quand on a 60 ans et puis que les enfants sont partis. Donc c'est permettre une certaine flexibilité dans l'usage, de se dire, ah ben tiens, je serai 15 ans dans cet appartement-là, ensuite je peux changer facilement et puis le réadapter à mes besoins, payer peut-être un peu moins cher, moins de temps pour l'utiliser. Donc c'est cet aspect de flexibilité. Il y a la mixité qui est quelque chose d'important, justement, que en termes d'âge, en termes de type de personne, de société, de moyens financiers aussi, qui permettent de partager des services, des infrastructures. Il y a la question de la densité qui est une question clé. C'est comment est-ce qu'on arrive à vivre un peu plus en utilisant moins de surface au sol, mais en ayant tout autant la même qualité de vie. Donc, de façon, par exemple, de dire, est-ce qu'on a tous besoin d'une chambre d'amis dans notre appartement, ou est-ce que peut-être une chambre d'amis dans l'immeuble, ça pourrait pas suffire, et puis on la loue quand on a besoin, ou ce type de choses. Donc, c'est des choses assez intéressantes, pas très compliquées dans le fond, mais qu'il faut penser dès le départ, et puis gérer ensemble, trouver des solutions.
Des types de quartiers comme ce que vous décrivez actuellement, est-ce que ça existe en Suisse, dans la région?
Alors, sur Bienne, il y a la coopérative FAP-A qui existe, qui est à relativement petite échelle, mais qui fonctionne bien. Et puis ensuite, on est quand même encore assez vite dans les grandes villes, sur Lausanne, sur Zurich, la Kalkbreite, c'est un endroit très connu. À Berne, il y a aussi des quartiers qui vont fortement dans ce sens-là. Ce qui est intéressant à Berne, c'est qu'il y a aussi des quartiers qui ont été rénovés. Dans ce sens-là, on n'est pas uniquement dans la construction de nouveaux quartiers. Parce que les grands enjeux en Suisse, c'est pas tellement de créer des nouveaux quartiers ou des nouveaux écoquartiers, mais c'est de rendre plus durables les quartiers existants.
Alors, c'était ma prochaine question. Du coup, ça veut dire que les maisons existantes qui ne répondraient pas aux normes d'écoquartiers, on peut les transformer? On va pas détruire les quartiers.
C'est par contre souvent un petit peu plus compliqué. Ça demande aussi de l'expérience. Il y a les questions énergétiques qu'on connaît. Donc voilà, on peut isoler, on peut rajouter des panneaux solaires, des choses de ce type-là. Mais ensuite, ça va être de travailler dans la structure, de se dire, voilà, est-ce que la façon dont sont arrangés les appartements maintenant, si on garde l'enveloppe du bâtiment, donc les murs porteurs et autres, est-ce qu'on arrive à réarranger l'intérieur? Il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans les bâtiments industriels, qui sont justement des grands bâtiments avec des belles structures, avec beaucoup de place à l'intérieur. Et là, on peut recréer quelque chose qui est intéressant en termes de vie durable.
Alors on l'aura compris, un éco-quartier, c'est un quartier avec des habitations écologiques, mais c'est aussi un projet social, c'est de la mixité, c'est des gens qui se rencontrent dans la région ou dans les plus petites zones ou dans les zones rurales. On voit parfois des projets de promoteurs qui lancent des éco-quartiers qui ne sont finalement que des groupements de maisons avec le label Minergie. Est-ce que cette étiquette d'auto-quartier et d'éco-quartier est un peu usurpée parfois, à début de promotionnel ?
Oui, alors c'est pas du tout un concept qui est protégé ou autre. Donc, comme tout concept qui est intéressant ou qui donne envie, ben certains vont essayer de se le mettre comme label, comme vous dites. Voilà, un label Minergie, ça fait pas encore un écoquartier. Si on crée un quartier complètement extérieur où les gens ne vivent pas ensemble, vont tous travailler ailleurs et ont pour ça besoin de deux voitures, on a raté l'exercice.